5 à 7 de l'Institut économique de Montréal, l'économiste Vincent Geloso. Bonjour.
Bonsoir, Danny. Comment ça va?
Ben oui, c'est flatteur un peu que Normand Lester se serve de toi dans une de ses nouvelles qu'il a publiées sur, dans les médias.
Ben écoute, moi, je ne peux pas me plaindre. Ça prouve que je fais pas ma job trop mal s'il finit par me citer. Donc, peut-être que je vais aller voir mon boss et je vais essayer de regarder si tu m'employes pour une bonne raison.
Les étudiants, Vincent, avaient promis et promettent encore une guerre à notre gouvernement parce qu'on augmente les frais de scolarité. On veut aussi faire la guerre aux recteurs. J'ai été fouillé aujourd'hui encore s'il y avait quelque chose de récent. Entre autres, en fin de semaine, c'était un des colloques du Parti libéral du Québec et seulement 80 étudiants se sont présentés pour manifester. Donc, la guerre, elle n'est pas si forte que ça. Je ne sais pas si on nous prévoit du grabuge dans les prochaines heures ou prochaines journées, mais cette hausse de droits de scolarité ne fait pas nécessairement l'unanimité. Puis tant mieux, je pense que faut se réajuster en fonction de ce qui se passe ailleurs. Exemple en Ontario et dans l'Ouest canadien, tu as peut-être des chiffres à l'appui. Les étudiants paient beaucoup plus que les ceux du Québec.
Ben oui, mais en fait, on va commencer très simple. Le gouvernement va dans une bonne direction. Mais ça fait pas l'unanimité, puis même moi j'embarque juste à dire il y a du bon, mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'idée de laisser les universités pouvoir charger librement selon les coûts de formation par département pour qu'elles se fassent compétition entre eux. Puis la dernière réforme qu'il y a eu d'augmenter les frais de scolarité de 325 $ par année pendant jusqu'à 2016-2017, c'est pas une réforme qui est suffisante.
On aurait dû être plus agressif au niveau du coût, au niveau de l'implication des universités, des entreprises. À quel niveau?
Non, ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il faut comprendre une chose. L'éducation, c'est un placement. Les premiers gagnants de l'éducation universitaire, c'est ceux qui la font. C'est pas la société en général. Il y a personne qui devient médecin pour être médecin pour la société. Oui, c'est peut-être quelque chose, mais il va aussi gagner quelque chose monétairement. Il va être plus riche plus tard. Dépendant de comment est-ce que quelqu'un qui fait un bac, contrairement à quelqu'un qui fait juste un diplôme d'études secondaires, va peut-être faire son rendement là, par année. Ce qu'est-ce que ça représente, c'est 15% pour un homme, 20% pour une femme. En gros, là, c'est deux fois le marché boursier. Deux à trois fois le marché boursier. Quand tu mets ton argent en bourse puis tu le laisses là longtemps, ben c'est deux fois le rendement que tu as d'aller à la bourse.
Donc, c'est tout un placement. Là.
C'est tout un placement. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est très rentable. Et présentement, le gel des frais de scolarité, ben ça fait en sorte que les universités sont sous-financées, ont de la difficulté à accomplir cette mission-là. Mais il y a aussi une autre chose qui est vraiment pervers. C'est que le gel des frais de scolarité et le fait que les frais sont pareils de département à l'autre, ça aide les riches d'aujourd'hui et les riches de demain.
Donc, un étudiant qui étudie en médecine a les mêmes frais qu'un étudiant qui étudie, je sais pas moi, en philosophie.
Exactement. Et soyons honnêtes, entre toi et moi, qui a le rendement plus élevé, le gars en médecine ou le gars en philosophie?
Parce que ça va coûter à la société beaucoup plus cher former un médecin. On en a besoin, il faut le dire. Alors toi, ce que tu voudrais, c'est que ces familles-là qui sont bien nantis ou ces étudiants-là qui auront un meilleur salaire plus tard, qui sont sur le marché du travail, devraient investir davantage dans leurs études et dans les coûts de scolarité.
Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un en anthropologie paierait qu'est-ce que l'université décide de charger pour anthropologie et qu'est-ce que l'université décide de charger pour médecine. Donc, ça serait plus 2100 $ pour médecine et anthropologie, ça serait littéralement des frais différenciés par département dans lequel les universités se feraient compétition. Par exemple, l'Université de Montréal ferait compétition à l'Université Laval pour médecine. L'Université de Sherbrooke ferait compétition à McGill sur le droit. Puis ils créeraient chacun leur créneau et les étudiants paieraient une partie de leur coût de formation et non pas un coût gelé. Et ensuite, on peut les aider vraiment en fonction de qui est le plus pauvre dans le groupe, avec de l'aide financière aux études bien ciblées.
Et le fait d'instaurer une compétition entre les universités, ça va les forcer à être plus créatives,
oui,
à offrir de meilleurs programmes, à offrir de meilleurs professeurs pour que justement les étudiants puissent bénéficier de leur programme à eux dans leur université.
Ben non seulement ça, mais ça peut... Les gens pensent compétition, puis ils pensent des gens qui se coupent la gorge pour une chose. Ça peut pas nécessairement dire ça. Ça veut dire, en fait, ça veut dire tout le contraire de ça. Quand on regarde certaines universités, exemple, l'Université du Québec à Rouyn-Noranda, eux pourraient devenir très spécialisés dans tout ce qui est sciences de la foresterie.
Oui.
Ils sont dans la bonne région ou en sciences qui sont liées en ingénierie avec des stages dans le secteur minier. C'est quelque chose qui serait aussi très rentable. Tout comme l'Université de Montréal pourrait devenir une place bien reconnue en urbanisme ou en médecine, ou l'Université du Québec à Rimouski qui deviendrait réputée pour toutes les questions de sciences maritimes, de navigation, d'océanographie. C'est toutes des choses que les universités pourraient se développer des créneaux à eux, des places où elles ont une réputation, où tout le monde veut aller vers cette université-là pour une formation particulière.
Mais ça, oui.
Monsieur Gélozo, il y a un auditeur qui nous a appelé qui a terminé, lui, son droit, puis il disait que, ben, selon votre point de charger plus cher, selon le programme, oui. Mais c'est parce que dans certains programmes, ça coûte de 400 à 500 $ juste pour les livres. Puis dans d'autres programmes, ben, t'as pas autant d'à côté à acheter. Fait que là, je me demande si c'est pas là qu'elle se fait là, comme la justice ou la reprise là de l'argent que les jeunes ont à débourser. Là. Parce qu'en médecine, c'est certain que ça coûte plus cher qu'en psychologie.
Ben, il y a rien qui... Je peux pas dénier le fait qu'il y a des places où c'est que les manuels sont plus chers que d'autres. Mais le gel des frais de scolarité, c'est pas la bonne réponse. Le gel des frais de scolarité, les frais de scolarité, c'est une partie infime de la facture que l'étudiant assume. Il assume aussi tous les coûts de vie, la nourriture, le transport, le logement et les livres. Le gel des frais de scolarité, ça fait juste priver l'université de manière de se financer, de se faire compétition avec les autres quand les frais sont différenciés par département. Et ça n'aide pas nécessairement l'étudiant le plus pauvre. Au contraire, quand on regarde au Québec, pour chaque étudiant qui vient du 25% le plus riche, il y en a 2,9 étudiants qui viennent du 25% qui viennent du 25% le plus riche. Ça veut dire que pour chaque pauvre, il y a 2,29 riches. Puis ça, c'est de toutes les provinces, c'est le Québec qui a le plus de ça. Et pourtant, on a un gel des frais de scolarité. La vraie solution pour aider, comme l'étudiant qui parlait, qui a un bon point. Mais le point, c'est pas de geler les frais de scolarité, c'est de laisser les différencier pour que son éducation A devienne plus rentable pour lui, mais aussi qu'on se mette à cibler les étudiants qui ont vraiment besoin d'aide avec une aide financière aux études plus généreuse.
Et tout ce que vous apportez, ou tout ce que t'apportes, Vincent, comme information, je dis, tu l'as étudié, tu l'as comparé, tu m'as même envoyé des données, je pense, es-tu avec les écoles britanniques, l'université britannique?
Fait beaucoup de comparaisons au niveau canadien.
Oui.
Au niveau canadien...
Parce que nos universités québécoises ne figurent pas là, dans les meilleures universités canadiennes.
Si on exclut McGill, non. Il n'y a pas beaucoup de nos universités qui finissent dans le top 200. Okay. L'Université de Montréal qui réussit à s'y hisser à peine, mais la plupart des universités ne réussissent pas à entrer dedans. Au Canada, elles sont dans le peloton de queue. Ce sont des universités qui sont pourtant... On n'a rien qui fait en sorte qu'on ne devrait pas être capable moins que d'autres.
Okay. Mais les universités qui sont à la tête, là, mettons les 50 ou les 25 premières au Canada, au niveau des frais de scolarité, est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux et est-ce qu'il y a beaucoup plus de censure au niveau de l'inscription, c'est-à-dire qu'on filtre, on prend que les meilleurs étudiants, par exemple?
Bien, meilleur exemple, prenons les MBA. Les MBA au Canada, tu classes les frais de scolarité puis tu classes le placement dans les meilleurs MBA au Canada, bien, généralement, la place des frais de scolarité, c'est à peu près la même que le rendement du MBA, que l'université, disons, la première université qui charge le plus cher, c'est aussi celle qui est la première dans le palmarès des MBA. Ça, c'est parce que des universités qui obtiennent l'argent, qui financent leur programme, qui amènent les meilleurs professeurs, qui amènent le meilleur personnel de soutien, qui ont des laboratoires bien établis, qui ont une réputation, ben, c'est eux qui vont pouvoir offrir le plus grand rendement à l'étudiant. C'est ça qui est important. En fin de compte, c'est est-ce que cette université-là va offrir le meilleur rendement possible pour l'étudiant. C'est ça qu'il faut regarder. Quand on regarde les universités puis qu'est-ce qu'ils chargent, ben, il y a une raison pourquoi quelqu'un qui va à Harvard aux États-Unis, ben, il paye une fortune, mais avant qu'elle, quand il va revenir après ici, il va recevoir un paquet d'opportunités d'emploi. Mm-hmm. Moi, j'ai fait une bonne université en Angleterre. Quand je suis revenu, ben, on m'a employé facilement. Les gens voulaient quelqu'un qui avait fait une formation. Bon. J'ai pris des risques, mais la question maintenant, c'est comment on fait pour s'assurer que nos universités deviennent plus rentable pour les gens qui vont faire ce choix-là, surtout les plus pauvres, puis comment on aide justement les plus pauvres avec une aide financière aux études qui est vraiment ciblée, qui est en fonction des revenus, et non pas le gel des frais de scolarité comme il est maintenant, qui aide les plus riches davantage que les plus pauvres.
Dans ce cas-là, M. Gelozo, il faudrait considérer le fait que il y a des gens qui vont à la formation professionnelle, qui est de niveau collégial, donc les frais d'inscription sont vraiment moindres, mais qui risquent de retrouver un emploi qui va être pas mal plus payant que bien des emplois à l'université.
Ben, c'est un point intéressant. Pas nécessairement parce que la question de la formation professionnelle, c'est un long panier de crabes qui est difficile à ouvrir. Mais il y a un phénomène que tous les étudiants parlent présentement, c'est la surdiplomation des gens qui sont doctorants en sociologie, en philosophie, en anthropologie, et qui ont de la difficulté à se trouver un emploi lié à leur marché. Mais ça, c'est exactement une bonne illustration de pourquoi. Premièrement, ces gens, le gel des frais de scolarité est mauvais. Les universités envoient beaucoup d'étudiants dans ces départements-là où ça coûte pas très cher et n'en mettent pas beaucoup dans les autres où ça coûte plus cher, obtiennent un rendement pour ça. Mais aussi, il y a une raison pourquoi maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, je vais faire une formation professionnelle, je vais faire, au lieu de faire quelque chose, disons, en infirmerie, parce que maintenant, les universités veulent pas ouvrir des places en sciences infirmières, ne veulent pas ouvrir des places en médecine parce qu'ils peuvent pas, c'est pas rentable pour eux. Je veux dire, c'est un organisme qui doit faire de l'argent, mais ils sont pas capables d'être rentables à cause de ça. L'idée, ça serait davantage de laisser les universités se faire compétition, puis l'université pourrait dire, ben écoute, moi je vais accepter quelqu'un qui est un peu moins bon au cégep parce qu'il s'est pogné le cul au début, mais on va pas le pénaliser pour ça. On va lui donner une chance, puis finalement, on regarde d'autres choses que juste les notes, on va faire une entrevue plus complète, on va avoir les meilleurs étudiants, on veut faire une bonne réputation.
Faut pas glisser sous le tapis la situation qu'il y a des familles ou des étudiants qui ont moins les moyens. À ce moment-là, je suppose qu'on augmente les prêts et bourses pour venir en aide à ces familles-là?
Définitivement. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais le gel des frais de scolarité aide beaucoup les plus riches. Tous les facteurs qui font que quelqu'un va à l'université, c'est l'éducation des parents, c'est le revenu des parents. C'est les notes aux primaires qui sont aussi dépendantes du niveau d'éducation des parents. Quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé a un paquet de facteurs qui jouent moins en sa faveur que quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé. Le gel des frais de scolarité, c'est une subvention aux plus riches qui ont plus de chances d'aller à l'université. Maintenant, pour les plus pauvres, il y a un paquet de mesures qui doivent commencer avant que les gens entrent dans les portes de l'université. Mais après, l'aide financière aux études, ça doit se diriger en fonction vraiment du revenu des plus pauvres. Une des idées, ça serait de faire comme en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, les étudiants peuvent avoir un prêt pour financer leurs études. C'est 3 ans où ils travaillent pas. Ils peuvent obtenir un prêt qui va être remboursé en fonction de leur revenu. Ça, c'est un modèle d'aide aux étudiants qui
donc,
est
généreux. C'est palliatif. Oui. Selon le montant que tu gagneras plus tard, un pourcentage ira sur le remboursement de ta dette étudiante.
Exactement.
OK. Excellent. Hey, je lisais même la semaine dernière que en dollars constants, là, si on n'augmentait pas les coûts de frais de scolarité, là, c'est comme si on était en 1968. Là.
Ben, en fait,
il est temps qu'on se réajuste. Là, hein,
en fait, ce que le gouvernement veut faire avec sa réforme, c'est le 325 par session, c'est de faire en sorte que d'enlever le fait que depuis 1968, les frais de scolarité n'avaient presque pas augmenté. Si on les avait partis de 1968, qu'on les avait laissés à l'inflation, ben le 325 maintenant par année jusqu'à 2016, c'est de rattraper ça. On rattrape même pas la moyenne canadienne, là. On permet pas, ça ferme pas le sous-financement des universités. Ça augmente pas la contribution des étudiants à leur financement. Au contraire, ça augmente d'à peine 4%.
Vincent Gelozo, merci bien.
C'est un plaisir.
Bye bye. Vincent Gelozo, il est économiste à l'Institut économique de Montréal.